Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Je ne pensais pas venir en fait, je suis venue un peu malgré moi parce que j'ai accompagné un ami que je devais déposer à la porte. Je me suis retrouvée dans cette salle et là voilà, le couvercle s'est refermé sur moi. C'est-à-dire que d'abord je me suis assise au fond et j'ai vu tous ces gens qui s'étaient brûlés à la même flamme que moi. Ensuite il y a les accusés qui se sont levés pour se présenter, je ne les avais jamais vus parce que jusqu'alors je ne m'étais pas intéressée aux faits. J'avais géré que mon chagrin. Donc je les ai vus se lever, je me suis dit ok, j'ai aussi rendez-vous avec mon traumatisme ici. Et ensuite, voilà, le président a égrené le nom des victimes. Je me suis dit ok, on convoque aussi les fantômes, donc tout le monde est là. Quand Salah Abdeslam prend la parole, moi j'ai une réaction physique assez dense, quoi. C'est-à-dire que c'est tout mon corps qui se raidit. Mais après, je ne sais pas si c'est lié à ce qu'il a potentiellement pu faire ou pas faire, on ne sait pas, voilà. Ou si c'est lié à sa personnalité qui est quand même un petit peu particulière, quoi.
Ce témoignage, c'est celui d'Aurélie. Le 13 novembre, elle a perdu son compagnon Mathieu au Bataclan, le père de son fils et du bébé qu'elle attendait à l'époque. Ce procès, vous l'avez entendu, elle pensait ne pas y assister. Il la marquera finalement à jamais, alors que le verdict est attendu ce soir. RTL Midi a voulu donner la parole à celles qui ont suivi cette audience pour RTL, Cindy Hubert et Anne Le Hénaff. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour à tous.
Quelle est l'image qui vous a, vous, le plus marqué, celle que vous garderez de chacune de ces 10 mois d'audience?
Eh bien, je crois que ce n'est pas une image, en fait, mais c'est du son, le son de l'attaque au Bataclan, vous vous en souvenez peut-être. Il se trouve qu'un technicien avait laissé un dictaphone le 13 novembre, quelque part dans la salle de concert. Ce qui veut dire que depuis le début, la police a toute la bande-son de l'attentat. Alors, on n'en a écouté que quelques minutes, mais je vous assure que c'est quelque chose d'entendre les tirs de Kalachnikov qui résonnent, assis à quelques mètres de ceux qui ont survécu, ou de percevoir au loin cette femme qui supplie dans la fosse et qui se fait achever la seconde d'après. Et d'ailleurs, cela a fait l'objet de grands débats ici. Qu'est-ce qu'il faut cacher, montrer au tout début de ce procès? La Cour a pris beaucoup de précautions. Puis, à la demande de partie civile, on a vu récemment une cinquantaine de photos, en plus du Bataclan. Et la bande-son a été versée au dossier, ce qui veut dire que tous ceux qui le souhaitent peuvent désormais l'écouter en entier.
Et vous, Anne, qu'est-ce qui vous a marqué?
Alors moi, c'est l'image d'une jeune femme qui s'appelait Émilie. Elle a témoigné un soir d'octobre dans ce long tunnel de témoignages de toutes les victimes. Elle avait les cheveux très courts, une marinière. Elle n'a pas été blessée. Elle s'est cachée dès le début des tirs au Bataclan. Elle n'a pas perdu de proches. Et pourtant, on l'a entendue à la barre déverser une immense souffrance. Elle tremblait, elle pleurait. Elle avait beaucoup de mal à parler. C'est un peu ce qu'on a appelé les balles invisibles. C'est-à-dire cette incapacité qu'ont beaucoup de parties civiles à vivre depuis. Par exemple, elle n'arrivait pas à s'occuper de son fils. Elle était totalement détruite psychiquement et elle souffrait aussi, je pense, de la culpabilité du survivant. C'est-à-dire, je vais pas bien, mais je peux pas me plaindre parce que moi, j'ai rien eu. On a aussi entendu d'autres parties civiles dire « je suis vivant parmi les morts » ou « mort parmi les vivants ». Donc autant moi je m'attendais, je m'étais préparée autant que possible à entendre des choses horribles, de voir des corps déchiquetés, des deuils impossibles. Et on en a eu évidemment notre lot, mais se rendre compte à quel point des gens qui n'ont été ni endeuillés ni blessés sont par terre depuis 6 ans et n'arrivent pas à remonter, ça m'a beaucoup marquée. Je pense que c'est un peu aussi ça le terrorisme, la terreur qui pèse encore sur ces gens aujourd'hui.
La Cour délibère 5 magistrats enfermés depuis lundi dans un lieu tenu secret, Cindy Hubert.
Une caserne quelque part en Île-de-France, interdiction d'en sortir jusqu'à ce qu'ils se soient mis d'accord sur un verdict. 2 nuits sur place, donc livraison de plateaux repas, et cela prendra le temps que cela prendra, a prévenu le président. Qui sait à quel point cette décision est attendue? La Cour va devoir détailler le rôle de chaque accusé, et vous imaginez que ce n'est pas simple quand on pense que le dossier fait 1 million de pages. Et que nous sortons d'une audience de 148 jours. Pour le moment, le verdict est attendu ce soir ou cette nuit.
Anne, l'un des enjeux de ce verdict, c'est perpétuité réelle ou pas pour Salah Abdeslam notamment.
Oui, c'est l'accusé le plus célèbre des 14 présents. C'est le seul survivant des commandos et c'est la peine qui a été demandée à son encontre par le parquet antiterroriste. Ça veut dire une vraie perpétuité avec un tout petit espoir de demander un aménagement de peine d'ici 30 ans. Et il sera quasiment impossible à accorder puisqu'il faudra réunir des commissions, des experts, des médecins et demander l'avis des victimes. En fait, cette peine, elle n'a été appliquée que 4 fois en France pour des psychopathes tueurs d'enfants. Les avocats d'Abdeslam ont dit c'est une sorte de mort blanche que vous demandez à son encontre. Ils s'attendent certes à une peine plus lourde, mais pas la plus lourde possible. Pour celui qui aurait certes pu tout empêcher, mais qui n'a pas tué le 13 novembre, il l'a dit lui-même, hein, c'est une peine à la hauteur des faits commis, mais pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box.
Cindy, c'est important pour les victimes, évidemment, ce verdict.
Alors oui et non, pas pour les peines, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais la plupart des victimes, elles n'ont pas d'attente spéciale sur les peines. On ne réclame pas vengeance. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est pardonné, comme dirait Charlie Hebdo. Mais je crois qu'il y a deux choses. Déjà, évidemment, les assassins des commandos sont morts, mais même s'il reste ça à Abdeslam, même s'il y a dans le box, et c'est rare d'ailleurs, de gros poissons, des combattants de l'État islamique, des combattants aguerris qui devaient commettre des attaques en Europe... Eh bien, ce n'est pas pareil que d'avoir la personne qui a tiré sur son fils, sans doute. Et puis, l'immense majorité des parties civiles fait confiance à la justice, tout simplement. Je pense à ce père qui me disait « Heureusement que ce n'est pas moi qui dois juger ». Le président de la Cour, il a su tenir le cap en 10 mois. Et je crois que les parties civiles, ce soir, elles sont prêtes à accepter le verdict, quel qu'il soit.
Alors, ce soir, il y aurait peut-être une page qui se tourne, mais pas forcément. Parce que tous ces accusés pourront faire appel... Et on imagine de nouveau un procès de 10 mois. Et c'est peut-être pour cela que Abdeslam n'aura pas la peine la plus forte, d'une certaine manière, parce que ça pourrait le dissuader de faire appel et de ne pas repartir vers un nouveau procès fleuve.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y aura nécessairement un appel parce qu'on a une telle différence entre les plaidoiries des côté défense et les réquisitions qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un appel sur les 14 accusés.
Donc, il y aura de nouveau 10 mois de procès, 1 million de pages, comme vous l'avez dit ?
Peut-être pas 10 mois, mais c'est sûr et certain qu'il y aura un procès en appel. Après, sur le sort de Salah Abdeslam, il ne faut pas oublier que de toute façon, un autre procès l'attend, hein, puisqu'il est aussi impliqué dans les attentats de Bruxelles, qui veut dire qu'à l'automne, il y a un autre procès qui l'attend. Vous savez, hein, c'est le 22 mars 2016, les attentats de Bruxelles. Et là aussi, il risque encore la perpétuité. Donc, quoi qu'il arrive, le sort pénitentiaire, j'allais dire, de Salah Abdeslam, il est scellé, il va passer sa vie en prison.
Procès en Belgique, la prochaine fois également ? Procès en Belgique ?
Absolument.
Ou en Belgique ?
En Belgique, à l'automne, voilà, qui va durer, encore une fois, on est sur un autre procès fleuve, on est sur un procès qui pourrait durer entre 6 et 9 mois, il n'y a pas que lui qui est jugé, il y en a 5 là des 14, puisque, encore une fois, c'est une seule et même cellule, hein, c'est les mêmes commandos, et toute la question a été d'ailleurs ici à ce procès, de dire mais pourquoi on n'a pas fait qu'un seul procès.
Tout groupé. Voilà, Anne Le Hénaff, juste un dernier tout petit mot, on a entendu beaucoup de victimes ou de parties civiles ces derniers jours dire ça risque d'être un grand vide après... à l'énoncé du verdict.
Ben oui, parce qu'elles ont vécu ensemble pendant 10 mois, elles ont vécu quelque chose d'assez incroyable pendant ces 10 mois, et demain, elles vont reprendre, si on peut dire ça comme ça, une vie normale, et tout le monde appréhende un peu, en fait, cet après-procès. C'est la béance de l'après-procès, a dit un avocat. Les avocats aussi, hein, ils ont vécu ensemble ces 10 mois d'audience, il y a des liens qui se sont créés, ils ont écrit des plaidoiries en commun, ça, c'était pas vraiment vu. Pour tous les professionnels qui ont vécu ces 10 mois d'audience, y compris les journalistes, hein, nous aussi, un procès aussi long, aussi douloureux, aussi technique, on n'a jamais vécu ça. Donc, pour tout le monde, c'est une page qui se ferme, un chapitre nouveau qui va s'ouvrir demain. Et pour Cindy et moi, c'était important d'y aller quasiment chaque jour à ce procès pour faire vivre aux auditeurs d'RTL ce procès vraiment historique.
Et j'imagine que pour vous qui suivez l'actualité judiciaire, il y aura eu un avant et un après ce procès. Merci Cindy, merci Anne. Et
merci,
on vous retrouve dans nos prochaines éditions.